Radio Livre Dormir.
Radio Livre Dormir.
Radio Livre ou Dormir.
Retransmission de rencontres littéraires.
Le matin, de 8h
à 10h,
le jeudi matin.
Radio Livre ou Dormir.
Retransmission de rencontres littéraires.
92.2 sur Canal Sud.
92.2.
Rencontre avec Florence Olivier autour de l'œuvre de Roberto Bolaño dans le cadre d'un cycle de lecture consacré à l'auteur proposé par la compagnie Les Arquelins. Le 8 juin 2023 à la librairie Terra Nova.
Oui, donc bonsoir. Merci d'être venu ce soir. D'être quoi je... Nous sommes heureux d'accueillir ce soir Florence Olivier. Et à la modération, Joël Bertrand, pour une rencontre autour du texte de critique littéraire sous le roman La Poésie, voilà, qu'a écrit Florence Olivier. Cette rencontre clôt le cycle autour de l'œuvre de Bolaño, voilà, qui a duré toute l'année. Voilà, bonne rencontre.
Bien, bonsoir, cher public. Donc... Pour clore donc le cycle que nous avons consacré à Roberto Bolaño et à son œuvre à l'occasion des 20 ans de sa disparition, on avait imaginé cette rencontre donc avec Florence Olivier qui a écrit donc un livre qui décortique la poétique de Bolaño, si on peut dire, la poétique d'un romancier. Donc déjà, c'est peut-être un premier axe de qui va nous guider dans notre parcours pour essayer de défricher le monde bolanien. Donc, Florence Olivier vient de Paris avec beaucoup de courage et d'abnégation. Et elle est enseignante à l'Université de la Sorbonne Nouvelle, Paris 3. Donc, enseignante en littérature sud-américaine.
En littérature comparée, mais spécialiste en littérature latino-américaine.
Voilà. Pour l'enregistrement, Florence, il faut que vous parliez dans le micro.
Donc, en littérature comparée, mais spécialisée en littérature latino-américaine.
D'accord. Voilà. Donc voilà, le livre, très rapidement, enfin, elle va en parler mieux que moi. L'étude, le livre publié aux éditions Hermann, donc de Florence Olivier, sous le roman La Poésie, elle est tente de défricher, oui, je disais défricher, d'essayer de montrer que l'œuvre de Bolaño part de la poésie. L'œuvre romanesque, phénoménale et assez monstrueuse de Bolaño. Et pour un poète, c'est totalement surprenant. Tant de romans publiés, tant de centaines, de milliers de pages écrites. Donc, en partant de la poésie, ça paraît un petit peu paradoxal. Et pourtant, le noyau de l'art bolanien, c'est la poésie. C'est l'engagement poétique qui a été le sien. Et c'est un peu l'axe qui va nous guider, donc je disais, dans ce parcours. Voilà, Florence. Donc vous pouvez peut-être commencer sur la nouaison, on pourrait dire, de cette vocation poétique chez Bolaño, chez le jeune Bolaño, et raconter un peu, sa biographie très succinctement, mais un petit peu quand même.
Bon, alors le tout jeune Bolaño commence par s'identifier lui-même comme poète au sein d'un groupe de poètes très jeunes qui sont à Mexico dans les années 70. Et ce groupe s'appelle l'infraréalisme. Les membres du groupe sont les infraréalistes qu'on va retrouver en tant que personnages fictionnels transposés dans des personnages de romans, dans en particulier les Détectives Sauvages. Mais donc Bolaño arrive à l'âge de 15 ans avec ses parents à Mexico en 68. L'année où, évidemment, le mouvement de 68 étudiants mexicains est réprimé le 2 octobre très, très violemment et criminellement par le gouvernement de l'époque, juste avant les Jeux olympiques qui devaient avoir lieu à Mexico en octobre 68, s'inaugurer à ce moment-là. Donc il arrive très tôt, donc il a 15 ans, il cesse très vite d'étudier de façon formelle dans un lycée. Commence à écrire, il lit énormément, donc il est autodidacte et c'est très impressionnant parce qu'il a une culture et une érudition littéraire et des intérêts extrêmement variés qui va constituer tout au long de sa vie d'abord de lecteur et ensuite d'écrivain. Mais il se forme d'abord comme poète, il se considère poète et il y a toute une dévotion de Roberto Bolaño tout au long de sa vie à la poésie, à l'écriture poétique. Donc, bon, je reviens sur les 15 ans à Mexico. Donc, il ne fuit pas la dictature à ce moment-là. D'ailleurs, elle n'existe pas encore, cette dictature chilienne. Cependant, à l'âge de 20 ans, donc il est un peu trotskiste. Sa sœur milite dans une organisation trotskiste. Et il part au Chili pour non pas seulement soutenir l'unité populaire de Salvador Allende, qui est un gouvernement évidemment de gauche, mais qui n'est pas un gouvernement révolutionnaire, mais peut-être pour soutenir la révolution au sein de cette situation de l'unité populaire menacée. Et évidemment, il a la malchance d'arriver quelques 2 semaines ou 10 jours avant le coup d'État du 11 septembre 1973. Donc il ne reste au Chili que quelques mois après le coup d'État et repart au Mexique. Et c'est lorsqu'il repart au Mexique, plus tard, qu'il fonde avec quelques amis qui ne sont pas seulement mexicains, mais aussi péruviens, chiliens, un autre chilien, ce groupe radical, d'une radicalité presque agressive et très marginale, qu'est le groupe des infraréalistes, qui défie évidemment toute l'intelligentsia mexicaine, les milieux artistiques mexicains et les milieux littéraires un peu institutionnalisés du Mexique de l'époque, tout ce que l'on voit d'une certaine façon carnavalisé dans les détectives sauvages. Donc cette période infraréaliste, elle, avec des manifestes, c'est vraiment un mouvement de néo-avant-garde, dure de 75 à 77. En réalité, le mouvement perdure après, mais les deux principaux animateurs, disons fondateurs du groupe, quittent le Mexique. Donc Bolaño, à ce moment-là, Roberto Bolaño, part en Europe, et son meilleur ami, Mario Santiago, un poète dont un poème vient d'être traduit en français cette année, aux éditions Alia, conseil d'un disciple de Joyce à un fanatique de Marx, ces éditions Alia de Mario Santiago. Et donc, Mario Santiago, lui, va vagabonder entre Israël et l'Europe. Les chemins des deux amis qui ont quitté le Mexique vont se croiser, évidemment, pendant ce séjour de Mario Santiago. Et quant à Roberto Bolaño, lui aussi vagabonde un peu en Europe avant de se fixer véritablement à Barcelone, où est déjà installée sa mère et où se trouve également sa sœur. Voilà. Et donc, après toute l'aventure en fait, littéraire de Bolaño, pendant des années, demeure celle d'un poète marginal qui fonde des petites maisons d'édition qui disparaissent aussitôt après avoir été créées ou très, très rapidement, au nom très éloquent, quand on connaît un peu les références à la littérature latino-américaine. Il est édité aussi par une maison d'édition à Barcelone qui s'appelle La Cloaca. Donc, c'est vraiment de l'underground. C'est vraiment... Et il vit cette vie héroïque, vie d'expédient, de petits travaux. il est veilleur de nuit dans un camping, ça, sur la côte,
oui, on le
retrouve beaucoup. Tout cela, on le retrouve évidemment mis en fiction dans divers romans, pas seulement dans les détectives sauvages.
La piste de glace.
Voilà. Oui, oui. Et bon, lui déclare que lorsqu'il va être père, il se tourne vers la forme du roman. Ça, c'est une déclaration parce qu'il va parvenir peut-être à vivre un peu mieux de son écriture. Bon. Mais ça, c'est un peu une sorte de mythification que fait de son propre parcours l'écrivain, hein, qui déjà écrivait de la prose narrative, des nouvelles, des brefs fragments, un journal, tenait un journal depuis très très jeune. Donc le poète et le narrateur, en réalité, étaient un contemporain l'un de l'autre, en fait, le très jeune poète et le très jeune narrateur. Voilà. Je ne sais pas si j'ai suffisamment répondu pour la partie biographique.
Oui.
Quant à la partie poétique, évidemment, on va dire que la valeur littéraire que place au-dessus de tout Roberto Bolaño jusqu'à la fin, c'est la poésie. C'est la poésie. Et la prose narrative, ici... Il s'y consacre avec une ardeur et un talent extraordinaire, mais elle réinterprète en réalité l'idéal poétique et les formes et les principes aussi de du groupe infraréaliste. D'une certaine façon, ces principes radicaux, subversifs du groupe infraréaliste des années 70 à Mexico, qui a toujours été condamné par l'ensemble des milieux littéraires mexicains, des trublions, c'était des moins que rien. bon, ces principes sont redéployés dans les œuvres narratives. Bon, voilà. Et donc...
Non, mais je vous en prie. D'accord, oui. Moi, j'ai toujours eu l'impression aussi, donc, du coup, que la poésie était comme le guide, l'aimantation du roman, de l'écriture dite en prose, et que même finalement la poésie elle-même, elle est proche de la prose dans sa forme, dans son propos. C'est pas un poète lyrique, c'est pas un poète, c'est un poète qui est proche un petit peu de la poésie américaine, de certaines formes de poésie américaine, enfin nord-américaine.
Oui, mais alors en cela, il pourrait être rapproché d'autres poètes latino-américains qui ont commencé à pratiquer ce qu'on a appelé la poésie conversationnelle dans les années 60, en réalité, donc très proche de certains poètes nord-américains, et lui, très particulièrement, de poètes et de narrateurs aussi de la Beat Generation.
Oui, bon, oui, exactement. Voilà. Oui, la référence, oui.
D'accord. Mais c'est vrai que bon, je l'ai écrit dans le livre, mais que la poésie demeure comme une sorte d'agent subversif ou d'agent clandestin dans la prose narrative de Bolaño. Elle la nourrit. C'est un ferment. Voilà. Et donc, par rapport à la poésie, à l'écriture poétique, très tôt, le jeune Bolaño rejette les modèles, disons, consacrés de la poésie engagée latino-américaine des années 70.
Neruda, 70. Par exemple.
En particulier Neruda, en particulier Pablo Neruda, parce qu'il est chilien et parce qu'il est incontournable, parce que c'est le père de la poésie latino-américaine de l'époque.
Donc le père, il faut le traiter comme...
Le père, et Octavio Paz au Mexique, bien sûr, parce que c'est autre chose, ce n'est pas le poète engagé.
Qui apparaît dans les détectives sauvages.
Qui apparaît dans les détectives sauvages. Donc ce que cherche à dire Bolaño, ce que cherche à trouver Bolaño et le groupe infraréaliste, c'est véritablement un lyrisme nouveau, un lyrisme différent, un lyrisme antilyrique. Et son grand modèle, c'est le poète Nicanor Parra, chilien, qui a écrit poèmes et antipoèmes. Donc l'antipoète Nicanor Parra.
D'accord.
Une poésie pleine d'esprit, extrêmement... subversive et faussement prosaïque. Et voilà.
Qui travaille sur le banal. C'est vrai. Oui. D'accord. Et effectivement, donc, le personnage du poète se retrouve... les poètes, en général, sont des personnages qui sont les acteurs. C'est eux qui font avancer le récit, quasiment, on pourrait dire, dans l'ensemble des grands romans ou des nouvelles, il y a toujours un personnage, ou très souvent, un personnage de poète. De poète un peu rimbaldien. Bon, je pense à une espèce d'engagement dans une vie... dans une forme... C'est pas un choix, mais c'est
une sorte de résultat d'une manière d'envisager la poésie, quelque chose de rimbaldien dans la manière de s'engager, de ne pas faire partie des institutions, d'être toujours en marge, d'être toujours décalé. Et donc le double de Bolaño, qui, on va revenir à la question de l'autobiographie, mais le double, son double, c'est un poète qu'il appelle lui-même dans ses romans Arturo Belano. Arturo, bien sûr, on pense que derrière ça, il y a forcément un hommage à Arthur Rimbaud. Et dans la manière de vivre, de concevoir la poésie, même si, bien sûr, on en est très loin stylistiquement, mais l'engagement total du poète dans la poésie, le refus de séparer la vie de la poésie, c'est quelque chose qui est présent tout au long de l'œuvre de Bolaño, matérialisé par ces poètes, ces jeunes poètes, qu'on retrouve surtout dans les Détectives Sauvages, mais pas que. Hein. Voilà, donc derrière ça, il y a effectivement la construction d'un monde de papier, on pourrait dire, une conception du monde comme le monde étant une sorte de... où la littérature est ce dans quoi se diffracte le monde, et notamment, on y reviendra encore aussi, le mal, hein, la question du mal. Bon, voilà, quelle est la question que je vais vous poser à partir de là ?
C'est vous qui les posez, les questions, donc vous avez développé.
Oui, voilà, donc je ne veux pas trop me substituer à vous.
On va dire, je vais reprendre un peu ce je raconte dans la partie introductive du roman, qui justifie justement le titre sous le roman La Poésie, c'est que exorciser un certain type de lyrisme et mettre à distance justement l'épanchement du moi, ça se traduit effectivement dans des fictions, dans des nouvelles et des romans, par une sorte d'éclatement de l'identité du jeu de l'auteur, et qui devient soit Arturo Belano, un personnage donc de fiction, soit B, simplement l'initiale que l'on retrouve, B, initiale dans beaucoup de nouvelles du premier recueil de Bolaño, Appel téléphonique.
Qui est avec son père.
Et donc, il y a une manière véritablement de mettre le jeu à distance et de pouvoir l'observer en personnage. Donc, quelque chose qui est une posture et une position d'emblée ironique et critique et antipathétique, même si le pathétique peut revenir autrement dans les récits des nouvelles et des romans. Voilà. En plus, on pourrait dire que non seulement les personnages, bien sûr, non seulement les personnages qui s'appellent Belano ou B sont des réinventions fictionnelles du jeu de l'auteur, mais il y a un autre jeune personnage dans Les Détectives Sauvages, le tout jeune écrivain de 17 ans, très rimbaldien parce qu'il a 17 ans.
García Madero,
qui est aussi une autre... une autre identité possible de l'écrivain. Donc, il serait diffracté entre Arturo Belano et García Madero. Voilà.
Et d'autres aussi, peut-être.
Et d'autres
également. Oui, donc l'élément autobiographique, c'est vrai que ça ne saute pas forcément aux yeux, mais l'élément autobiographique, moi, j'ai l'impression quand même qu'il est important. Il y a beaucoup, beaucoup de situations dont on sait qu'elles ont été vécues par Bolaño, bon, les relations avec les femmes notamment, c'est évoqué de plus ou moins proche, toute la période où il a été gardien d'un camping, ça c'est absolument incroyable, tout ce qu'il a vécu dans un camping où il était gardien de nuit, quoi. On retrouve cette figure dans plusieurs romans, même si c'est pas toujours le personnage de Belano qui est présent. Donc l'autobiographie, le portrait de l'écrivain Roberto Bolaño, il est fait en creux, en miroir, par une foule de personnages, notamment dans Les Détectives Sauvages, on y revient, qui le jugent, qui sont des narrateurs racontant les aventures et les exploits ou les faillites d'un personnage qui s'appelle Arturo Belaño. Il fait une sorte de biographie d'un personnage fictif, mais qui se trouve être son représentant. Je dirais pas son double totalement, mais son représentant. Donc l'autobiographie, elle est quand même très très présente. Hein.
Alors oui, mais il passe de l'autobiographie précisément, enfin des éléments autobiographiques, il les fusionne, il les dilue, les répartit, les diffracte, à une autofiction. Mais en réalité, dans Les Détectives Sauvages, bien sûr, il y a le personnage, alors, les aventures du personnage Arturo Bellano et parallèlement celles de Mario Santiago, enfin de Ulysses Lima, pardon, mais qui reprend la personne du meilleur ami poète de Bolaño, qui était donc Mario Santiago. Toutes ces aventures sur 20 ans sont racontées donc par une foultitude d'autres personnages qui ont croisé l'un ou l'autre, soit Arturo Bellano, soit Mario Ulysses Lima, au long de ces 20 années, entre 1976 et 1996. Et ça, c'est un exploit narratif extraordinaire que cet ensemble de monologues, que Bolaño, de monologues au centre du roman Les Détectives Sauvages, et en même temps, tous ces personnages qui s'expriment, enfin un grand nombre d'entre eux, sont des doubles, des personnages de fiction inspirés des membres du groupe infraréaliste. Donc il y a une histoire de groupe, il n'y a pas simplement l'histoire des deux héros, jeunes poètes qui ont quitté le Mexique, Ulysses Lima et Arturo Bellano, mais aussi à travers leur monologue, leur récit, l'histoire de ceux qui ont été les amis, les petites amies, les maîtresses, les correspondants, les éditeurs de ces personnages. Donc, et les compagnons du groupe viscéral réaliste dans la fiction qui renvoie au groupe infraréaliste réel. Voilà.
D'accord. Oui. Et donc, pour continuer sur la poésie et sur la manière dont la narration, dont le récit avance avec toujours en ligne de mire, on pourrait dire, la poésie, avec un attracteur, la poésie. Il y a une relation, je dirais, entre, moi, il me semble, entre le mal et la poésie. Alors, une relation qui est, bien sûr, la poésie, ce n'est pas le mal, mais la poésie, comment dirais-je, se frotte à la question du mal. Et dans Les Détectives Sauvages, il se trouve que ces trois jeunes poètes partent à la recherche. Alors, il y a toujours aussi une dimension dans les romans de Bolaño qui sont de l'ordre de la quête, presque de l'enquête même.
Oui, les deux, de la quête et de l'enquête.
Et de l'enquête avec une, presque quelque chose de, parfois des tonalités polars carrément.
Bien sûr.
Je dirais Bolaño utilisait réellement tous les registres possibles qu'a offert la littérature du XXe siècle, du polar, parfois même à la limite de la science-fiction, c'est du roman noir. Bon. Et là, donc, les trois jeunes poètes dans Les Détectives Sauvages partent à la recherche d'une poétesse mythique qui a donc été active à Mexico dans les années 20, je crois, c'est ça, qui s'appelle Cesarea Tinajero et qui est qui quelque part perdue dans le désert du Sonora. Et ces trois jeunes poètes partent à sa recherche. Donc, c'est un peu ce qui fait avancer le récit, en partie du moins, dans la première et la troisième partie donc du roman. Et donc, peut-être qu'il ne faut pas quand même que je dévoile tout à fait la fin du roman. Mais disons que, voilà, il retrouve la poétesse et finalement...
Oui,
il...
mais même si on dévoile la fin du roman étant une énigme, une devinette,
oui.
En réalité, nous n'aurons pas de fin du roman.
Oui, c'est vrai.
La fin du roman, chacun d'entre nous va la trouver en regardant la dernière page et la devinette visuelle.
Oui, trouve. C'est ça.
Alors évidemment, le destin de Cesarea Tinajero, oui, il se résout à un moment donné dans le roman et on ne dévoilera pas ce qui lui arrive.
Mais c'est la poésie en fait qui finalement a apporté le mal, qui a apporté le malheur involontairement, comme si la poésie transportait aussi une dimension de mal.
Bon. Oui, mais alors lorsque Bolaño parle de la poésie et de la poésie du 19e siècle, lorsqu'il ne parle plus des avant-gardes, ni mexicaines, ni latino-américaines, ni françaises, parce qu'il y a des hommages à Breton et à d'autres surréalistes, ces jeunes gens, les infraréalistes, avaient énormément lu aussi les surréalistes. Lorsqu'il parle de la poésie du 19e siècle, il dit, bon, comme poète, comme on sait, les Français. Donc, il parle là, évidemment, de Baudelaire, de Rimbaud, de Lautréamont, et de Mallarmé, évidemment. Bon, donc ce sont de toute façon des modèles incontournables dans la poésie latino-américaine du XXe siècle. Mais en particulier, moi, le rapport entre poésie et mal, bon, nous avons les fleurs du mal de Baudelaire et d'une certaine façon, évidemment, Bolaño reprend la manière dont Breton disait de Baudelaire qu'il était surréaliste dans la morale. Voilà. Et donc, on a ce rapport, effectivement, entre art, pas simplement poésie, poésie et mal, et art et mal. Et le mal comme art. Là, qui est un thème de De Quincey. Mais bon.
Oui, oui, d'accord. Et puis, alors, ça va jusqu'à... Moi, c'est une des choses, je vous le disais tout à l'heure, quand on s'est rencontrés cet après-midi pour préparer cette rencontre. C'est fascinant la manière dont il écrit, l'ambiguïté, si vous voulez, de la position des narrateurs quand il évoque la question du mal, du nazisme en particulier. Il se met du côté du mal, c'est-à-dire qu'il fait parler, non pas qu'il y adhère, bien entendu, hein, on est bien d'accord, mais qu'il pense, et il a sans doute raison, qu'il est beaucoup plus riche de parler du mal depuis le mal que de fermer, de clôturer dans une position uniquement critique au premier degré, si vous voulez, une sorte d'engagement contre la barbarie qui est devenue tellement standard que finalement ça perd toute force. Et lui, il augmente, je trouve, il y a une manière d'augmenter la puissance de la littérature, enfin d'évocation, quelque chose qui vous prend aux tripes, qui vous révulse en quelque sorte, en se mettant du côté du mal. Et je pense, moi j'avais découvert Bolaño avec le roman qui s'appelle Nocturne du Chili, où il parle de la dictature de Pinochet, vue à travers les yeux donc d'un membre de l'Opus Dei qui enseigne le marxisme à Pinochet. Bon, c'est gonflé, c'est tellement gonflé. Et ça donne quelque chose d'incroyable pendant que ces gens-là donc, discutent, font des fêtes et tout, dans les sous-sols de cette villa, c'est le consul des États-Unis, un diplomate américain en tout cas. Et donc, dans les sous-sols, il y a des gens qui sont torturés. Et voilà, voilà. Et si, au lieu de d'héroïser un personnage qui va être révolté par la dictature, il prend quelqu'un qui est du côté de la dictature. Enfin, avec toute l'ambiguïté, en plus, de quelqu'un de cultivé. Bon, voilà. À oui, vous, Florence.
Oui, mais c'est un monologue, là encore, dramatique, extrêmement long, Nocturne du Chili, qui est une fausse confession, c'est-à-dire une confession empreinte de mauvaise foi, d'un membre de l'Opus Dei, un ecclésiastique qui est poète et critique littéraire et qui renvoie à une figure réelle de poète et de critique littéraire de l'époque au Chili. C'est un personnage fictif, mais le modèle réel, ecclésiastique et critique littéraire, existait à ce moment-là et œuvrait dans le Chili de la dictature. Il n'a peut-être pas donné exactement celui-là des cours à Pinochet, mais il y a eu un autre écrivain qui a donné des cours de marxisme à Pinochet. Ah oui, donc, voilà. Donc, il y a une composition. Et effectivement, faire prendre au piège de sa mauvaise foi et de son discours, de son style ampoulé, de toutes ces tics stylistiques, ce personnage qui représente non seulement l'horreur morale des intellectuels, leur complicité avec le pouvoir militaire, mais aussi l'horreur littéraire, parce qu'il a un mauvais goût, il est plein de formules ampoulées qui font mourir de rire le lecteur, en espagnol en tout cas, je pense que dans la traduction aussi. Donc en fait c'est un procédé satirique qu'un des traducteurs de Bolaño, Chris Andrews, avait défini selon la littérature anglophone, comme un monologue dramatique. Donc c'est une sorte de monologue dramatique. Bien sûr, le personnage est seul, mais c'est comme s'il était sur scène. Et derrière ses propos, eh bien, comme il est sur scène, en quelque sorte, le monologue lui-même et la scène, eh bien, il se montre, il est la marionnette de son propre discours et de sa mauvaise foi.
Et il est en train de mourir, en fait.
Il s'autodénonce. Il croit qu'il est en train de mourir.
Il est sur son lit de mort, mais on ne sait pas.
Il croit qu'il est en train de mourir. Mais bon. Et en fait, il est sous le regard interpellateur qui le condamne d'un jeune homme qui est à la fois lui-même, son double en quelque sorte, qui l'hallucine, qui l'accuse de complicité avec la dictature, mais qui est aussi ce jeune homme, un disparu du Chili. Comme il y en avait tant sous la dictature chilienne et sous la dictature argentine, et une figure de Bolaño, bien sûr.
Oui, oui, oui.
Voilà.
Oui.
Donc ce jeune homme qui, à la fin, quand le curé dit « Mais c'est comme ça que se fait la grande littérature occidentale. Ouais. » C'est comme ça que se fait la grande littérature au Chili. Et le jeune homme qui remonte comme un corps, remonterait des eaux là où il aurait été jeté, qui affleure à la surface des eaux et qui se dresse dans les yeux, le regard halluciné du curé, lui dit non. Un non inaudible. Mais il lui dit non. Donc voilà, il y a malgré tout, à un moment, une intervention dans le discours qui remet en place.
Qui remet tout à sa place, oui, c'est ça. Oui.
Qui remet à sa place le confessé. Et qui signale quand même quel est le repère moral éventuel.
Oui, 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 oui.
Mais très, très discrètement.
C'est ça, c'est ça. Très bien, oui, oui, oui. Donc, ces figures qu'on retrouve aussi dans comment il a essayé de parler de la trace laissée dans la culture européenne et puis en ricochet dans la culture sud-américaine, par le nazisme donc et par la Shoah, les camps, etc. Tout ça est évoqué aussi dans un texte qui s'appelle « La littérature nazie en Amérique » qu'on retrouve aussi dans le roman qui s'appelle « Le Troisième Reich » également. Il y a quelque chose qui est un peu de cet ordre-là. Donc là aussi, il y a une manière de... Le mal devient aussi, comment dirais-je... Non pas une figure littéraire, mais oui, un attracteur sans doute, on pourrait dire... Un attracteur, je veux dire, sur le plan de l'écriture, le littéraire, narratif, si on veut. Et bien sûr, qui culmine dans ce roman absolument incroyable qui s'appelle donc 2666, le dernier roman publié, écrit peut-être pas, mais publié en tout cas. Je ne sais pas s'il a écrit d'autres choses après, je ne connais pas assez bien.
Non, il était en train d'écrire. Oui. Pardon, il était en train d'écrire 2666 lorsqu'il est mort.
Oui, d'accord.
Donc le roman est demeuré inachevé.
Oui.
Et presque achevé.
Oui, vous diriez qu'il est inachevé, oui.
Mais c'est ce que disent les éditeurs, mais en même temps, il est achevé. Bon, de toute façon, la fin ouverte est ouverte également dans d'autres romans qu'il avait pu véritablement conclure et déclarer conclu.
Oui,
il n'a pas eu le temps de le déclarer conclu.
Oui. Oui, oui. Oui, donc là, revient le thème du mal, donc avec l'évocation de cette catastrophe humaine, sociale, qui est au Mexique l'assassinat de milliers de jeunes femmes dans la ville de Ciudad Juárez, qui dans le roman s'appelle Santa Teresa. Et il y a donc. Mais il n'y a pas que ça dans ce roman, mais c'est aussi quelque chose qui est présent dans les deux parties centrales. Ou trois, même, je dirais, non. La première partie étant la partie des... Alors, dans la première partie, il y a une satire un petit peu du milieu universitaire qui est tout à fait drôlatique et dont vous pouvez parler peut-être déjà un petit peu. Cette ambiguïté, encore une fois.
Oui, la partie... Alors, le 1666, ce sont cinq romans en un. Donc, il y a la partie des critiques, ensuite la partie d'Amalfitano, ensuite la partie de Fate... Ensuite, la partie des crimes et enfin la partie d'Archimbold. Alors, la partie des critiques, eh bien, ça rassemble les histoires de quatre critiques. Donc, c'est un peu un jeu des quatre coins. Un Allemand, non, l'auteur sur lequel travaillent tous ces critiques est allemand. C'est le grand auteur allemand de la deuxième moitié du XXe siècle. Donc,
on retrouve à la cinquième partie. Donc.
Toute l'histoire est retracée dans la cinquième partie. Et donc, il y a un Italien, Morini, une Anglaise, Liz, Norton, il y a un Espagnol, Manuel Espinasa, et il y a un Français, Jean-Claude Pelletier.
Oui, voilà.
Donc, c'est un peu comme un conte, comme une blague, en fait. Une blague. Il y a un Argentin, un Français, un Italien et un... Voilà. Donc, c'est une blague. Et en fait, bon, c'est la littérature européenne, évidemment, qui est placée là. Et non plus du point de vue de l'écrivain lui-même, Archimboldi, qui va apparaître à la fin... dans la cinquième partie, mais du point de vue de ses critiques. Alors, évidemment, le monde de ces universitaires est fort policé. ils sont très éduqués. Cependant, ils ont des passions. Et ils ont des passions basses. Et même ces gens si civilisés, donc il y a un peu une inversion de civilisation et barbarie, font preuve de barbarie à un moment donné. C'est-à-dire que l'Europe est hantée, malgré toute sa culture, toujours hantée par la barbarie. On ne parle pas encore de la barbarie nazie, parce que la barbarie nazie, elle apparaît carnavalisée et pas dans l'œuvre d'Arcimboldi. Mais dans la partie des critiques, non. Simplement, on voit des résurgences comme ça de violence, d'agressivité, des passions mal muselées, des jalousies, des envies entre collègues qui apparaissent. Ceci dit, ces personnages sont par ailleurs extrêmement sympathiques dans leur...
Toujours cette ambiguïté, toujours cette ambiguïté. Oui.
Voilà. Sont par ailleurs extrêmement sympathiques, un peu... là aussi, ils sont moqués. Ils sont moqués, il leur arrive ce qu'ils ne voulaient pas qu'il leur arrive, perdre leur amour, du fait de leur propre rivalité, se voir jouer par un troisième rival, entre autres. Enfin, tout cela progresse. Mais leur temps, en fait, leur temps, leurs activités sont scandées par ces activités universitaires. Et donc, ils multiplient des petits voyages, des colloques d'un coin à l'autre de l'Europe, où ils se retrouvent, où ils se font connaissance, où ils se retrouvent, et où ils deviennent un peu les quatre, de quatre nationalités, un peu stylisées parfois. Et donc, ils sont amenés, parce qu'ils sont avides, en fait, ce sont des critiques. Mais les critiques ne sont pas des purs, évidemment pas. Ce sont des critiques universitaires, mais les critiques universitaires ne sont pas non plus des purs. Et donc, en fait, ils sont fascinés par la personne de l'écrivain, qu'ils n'ont jamais vu, qui est un écrivain invisible. Arcimboldi, sur lequel ils travaillent depuis des années, sur lequel ils ont écrit des ouvrages, qu'ils ont traduits, ils ne l'ont jamais vu. Ils ne connaissent que son éditeur. Et lorsqu'ils apprennent, ils essayent de le retrouver. Donc la quête de l'écrivain fait partie de récit des aventures, va lancer l'aventure. Ils apprennent qu'on l'a vu justement à Toulouse. À Toulouse, cet écrivain... enfin, à Toulouse, un jeune Mexicain raconte à quelqu'un d'autre que la dernière fois qu'Arcimboldi avait été vu, il était parti vers le Mexique. Voilà. Donc il y a une piste, et ils vont la suivre, et c'est comme cela qu'ignorant tout de la réalité criminelle et des féminicides ou des meurtres commis sur les femmes dans cette réalité criminelle d'un monde en contact avec le premier monde où le monde mexicain est en contact avec les États-Unis sur la frontière, ils vont arriver dans ce lieu qui pour eux est le comble de la barbarie, bien sûr, sans avoir véritablement la moindre conscience de ce qu'est cet univers américain, de la frontière. Voilà. Parce qu'en quelque sorte, dans le roman, il est dit que l'œuvre d'Arcimboldi est définie par ses critiques comme le miroir du XXe siècle. Or, en réalité, c'est une mise en abîme, en quelque sorte, de ce que fait 1666. Bien sûr, il y a la perspective très éloignée de ce mal dans les années 2000, et peut-être six siècles après l'année 2000, mais peut-être pas, c'est un chiffre véritablement, c'est une date du lointain dans le temps, de l'éloignement au futur. Mais en réalité, cette perspective de ce que sera peut-être le monde et le mal dans le monde part du constat des différentes résurgences et action en réalité du mal historique et politique. Bien sûr, il y a le mal radical, mais ce mal radical se manifeste tout au long du XXe siècle, soit en Europe, soit en Amérique, de diverses manières. Donc en Europe, il y a les deux guerres mondiales, bien sûr, il y a le nazisme, et en Amérique, il y a les dictatures latino-américaines des années 70 qui sont évoquées à travers Amalfitano, et puis il y a le racisme aux États-Unis. Donc en quelque sorte... ce qui se passe dans le moment contemporain sur la frontière dans les années 2000, c'est une nouvelle manifestation, un déplacement de ce mal qui se réincarne, se métamorphose et se déplace et fait écho d'un continent à l'autre. Sauf que les deux continents, c'est-à-dire les perceptions qu'ont du temps et de l'histoire, donc les habitants de l'un et de l'autre continent, de l'Amérique et de l'Europe, ne sont pas les mêmes. Et c'est le roman qui assemble tout cela et qui met en imminence d'assemblage ses regards sur les différentes incarnations et actions du mal, mal politique, mal historique, mal idéologique, mal criminel, entre les deux continents. Et donc, le monde et la criminalité de la frontière mexicano-américaine, ou américano-mexicaine, mais je préfère dire mexicano-américaine, il y a plusieurs possibles interprétations et perceptions justes, ou en tout cas intuition et terreur aussi, de ceux qui ont vécu d'autres moments du mal lorsqu'ils arrivent dans ce mal contemporain de la frontière où, bien sûr, c'est l'économie mondialisée hein, et l'économie de contact entre deux pays et deux parties de l'Amérique en réalité, entre le Nord, mais pas le Nord géographique, le Nord que représentent effectivement les États-Unis et le Canada d'un côté, et le Mexique qui prétend être du côté des États-Unis et du Canada, mais qui ne l'est pas. Enfin bon, tout c'est ça est extrêmement complexe. Voilà, les maquiladoras. Donc en effet, à la fois, les critiques comprennent finalement où ils sont arrivés et comprennent, saisissent à quel point leur lecture de l'écrivain allemand qui a écrit sur le sort de l'Allemagne peut éclairer cette réalité américaine à ce moment-là. Et de la même manière, celui qui vient de Harlem, celui, le journaliste nord-américain, peut percevoir mieux que d'autres, de la même manière que le Chilien Amalfitano, qui se trouve dans un deuxième temps d'exil à Santa Teresa sur la frontière, peut et sait ce que c'est que l'horreur. L'horreur du politique, l'horreur lorsqu'une société est en proie au terrorisme ou à la criminalité. Au terrorisme d'État, hein, je parle. Voilà. Mais là-dessus, cette partie des crimes, c'est effectivement... repose sur différents procédés d'écriture, mais il y a un effet de scansion. Je parlais de la scansion parce qu'il y a 110 fois, 110 fiches, ou presque, ça s'apparente à des fiches médico-légales de policiers, mais de médecins légistes aussi, donc des fiches bureaucratiques, en quelque sorte, qui... décrivent les corps des femmes retrouvées. Et donc, très froidement, non pas à la morgue, mais dans les lieux où elles se trouvent, c'est-à-dire jetées dans le désert, dans des décharges municipales clandestines, dans des canaux, à l'extérieur des zones industrielles, dans des interstices de la ville. C'est-à-dire que la ville, qui devrait être le lieu de la civilisation, est le lieu de la barbarie réellement, de cette criminalité, et que la sauvagerie du désert se retrouve en réalité dans ces interstices du tissu urbain de cette ville très particulière, qui n'est pas Ciudad Juárez puisqu'elle est fictive, mais qui ressemble au lieu de Ciudad Juárez. Et donc répéter 110 fois une description de corps, de cadavres de femmes avec ces menus objets autour d'elles qui ne sont pas forcément les siens en plus parce que les criminels peuvent échanger certaines petites je sais pas, une chaussette, un bas, un t-shirt selon les cadavres qui sèment comme ça autour de la ville tel que c'est raconté. Cette scansion est une scansion qui est paradoxale d'une certaine façon parce qu'à la fois elle présente l'horreur mais elle permet aussi malgré la froideur des spectacles qui sont mis sous les yeux des lecteurs à travers les descriptions dans les fiches, de faire une sorte de parcours de recueillement. C'est une sorte de poème aux morts. C'est un traîne. C'est ça. Et donc, je parlais du temps, des temps différents qui apparaissent, les temps des déplacements dans les colloques, des critiques. Là, c'est le temps du crime répété, le temps de la répétition, ces différences et répétitions. Et ça entre dans un ensemble de stratégies rythmiques qui se trouvent dans aussi dans cette partie où il y a des listes extraordinaires, par exemple, des poétiques de la liste, où il y a des listes de pathologies mentales que dressent entre eux des amants qui sont la directrice de l'hôpital psychiatrique et un policier. Parce que aux côtés des descriptions des cadavres et de, donc ce déploiement de l'horreur, mais surtout de la manière dont c'est mécanique. En fait, l'horreur, c'est toujours mécanique. L'horreur, c'est lorsque plus rien ne tient dans l'improvisation. Voilà. Alors, bon, aux côtés de cela, il y a des intrigues policières, des enquêtes qui tournent court et parfois des moments effectivement humoristiques. Par exemple, cette relation entre la directrice de l'hôpital psychiatrique et le seul policier qui soit vraiment un policier de bonne foi, qui s'appelle en plus Juan de Dios. On ne peut pas être mieux paré par son prénom. Voilà.
Dernière partie donc consacrée à l'écrivain qui fait l'objet de la quête des quatre universitaires. Qu'est-ce que vous diriez de cette partie-là en tant que la cinquième partie donc en tant
que... Je me suis échauffé.
En tant que dernière partie qui ne conclut rien en fait, qui ne fait juste que finalement fermer une boucle. Ça ferme une boucle, Archibald est présent dans la quête des quatre, et puis on le retrouve à la fin. Il y a une sorte, comme si tout ce qui est passé au milieu est enveloppé par cet univers littéraire.
Oui, mais c'est-à-dire que cette partie, elle raconte aussi la vie d'Archibald, comment il devient écrivain, mais aussi comment il a combattu dans l'armée allemande nazie, comment il s'est retrouvé sur le front en Ukraine, enfin, le front russe, mais c'était en Ukraine, comment, donc, il y a toute une histoire d'une famille allemande humble, au début, qui est la famille de ce futur écrivain, et puis sa formation. Et donc, l'horreur, en fait, de l'histoire à laquelle se trouve confronté ce personnage, l'histoire depuis, évidemment, vécue depuis l'Allemagne nazie, par un simple soldat, et puis après, qui devient écrivain, après avoir trouvé un manuscrit d'un écrivain juif russe, mais qui écrivait en allemand, dans un village d'Ukraine, Kostekino, où le manuscrit est caché dans une cheminée. Il lit ce manuscrit. Ce manuscrit raconte des histoires de la littérature russe. Ce manuscrit est aussi fictif. Ce n'est pas le journal d'Anne Frank. Ce n'est pas le journal de l'écrivain mort qui a été assassiné, visiblement. C'est l'histoire de la littérature, à la fois du début du XXe siècle en Russie, et celle de la littérature soviétique, et l'histoire de la formation de cet écrivain Borisansky. Mais c'est éblouissant. Et c'est là que le jeune soldat, Hans Wright, se convertit, en quelque sorte, trouve sa vocation d'écrivain en lisant Borisansky. Donc, en fait, il y a aussi une histoire de la manière dont la littérature se transmet d'une langue à une autre aussi, ou d'un territoire à un autre, malgré la guerre. Voilà. Et donc, comment se font des filiations littéraires? Comment la littérature, finalement, ne vainc pas le mal, mais est capable d'imaginer des univers alternatifs lorsque le mal est sur Terre, lorsqu'il est minuit dans le siècle, Borisansky, caché dans son isba du village de Kostekino, détruit, rasé, lui, Borisansky, il imagine des univers alternatifs, parce qu'il a un goût pour la science-fiction, et la science-fiction en Union soviétique avait beaucoup de une prospérité extraordinaire. Donc il y a cette possibilité d'imaginer toujours que cela pourrait être autrement. Voilà. Et une transmission donc de la littérature à travers les langues, et donc aussi une manière de pouvoir lire une œuvre qui est entièrement européenne, depuis l'Amérique, qui éclaire cette œuvre, même si elle ne parle pas de l'Amérique, ce que peut être le mal sur la frontière. Voilà. Et donc ce personnage est tout à fait attachant. Mais ce qui est aussi attachant, ce sont les personnages des autres, par exemple de son éditeur. Son éditeur est délicieux, son éditeur et son éditrice aussi. Et puis c'est sa fourmi, comme toujours chez Bolaño, d'histoires secondaires, des amours de la... des amours de l'éditrice avec un général roumain pendant la guerre, du devenir ensuite qui est raconté à un autre personnage qu'est devenu ce général roumain. Bon, et donc il y a une bifurcation des histoires, un fourmillement d'histoires qui est extraordinairement vital. Donc voilà.
Et finalement, cet ensemble, roman, nouvelle et sans doute aussi poésie, forme une sorte de méga... De macrocosme finalement d'une œuvre qui se plie à l'édition en fragments. Ben voilà, je fais un livre là-dessus, je fais un livre. Hein, il faut à un moment découper cette œuvre et c'est peut-être une sorte de facticité éditoriale.
Oui, alors moi je ne parlerai pas autant de facticité éditoriale. Non, non. On en a parlé tout à l'heure, j'ai dit que. Non, mais effectivement, je oui, l'œuvre, elle est une sorte de continuum. Il faut tout lire et on va trouver des passages et des liens entre des textes de poésie, des poèmes, des personnages qui reviennent, des situations qui sont dans les poèmes, que l'on retrouve autrement dans Les Détritus sauvages, par exemple. Oui, c'est un immense tissu et... On a l'impression que dans cette écriture continue, ces essais, cette écriture quotidienne, hein, absolument quotidienne de Bolaño, qui tenait des journaux de vie, mais dans ces journaux de vie, il y avait des fragments de récits, des ébauches. Bon, donc tout cela, il le façonne et il coupe dedans. On a l'impression que c'est un énorme tissu. Chatoyant et que dedans il va façonner certaines unités narratives après les ensembles poétiques. Et effectivement, bon, mais là ça correspondait à une nécessité de l'écrivain. Il se trouve que, et éditorial à la fois, il se trouve que lorsque Bolaño a envoyé son manuscrit de la littérature nazie en Amérique, il l'a envoyé à deux éditeurs à Barcelone. Et seul l'un des deux avait son adresse, lui a répondu, donc c'était publié chez Saïch Barral. Et l'autre éditeur d'Anagrama n'avait pas réussi à localiser Roberto Bolaño. Donc la littérature nazie en Amérique est une série, c'est un roman, mais c'est consacré à une série d'écrivains donc, d'extrême droite, du continent américain, pas simplement latino-américain, principalement latino-américain. Et donc, Jordi Herralde, l'éditeur d'Anagrama, a fini par pouvoir communiquer avec Bolaño. Et Bolaño lui a dit, ah mais oui, c'est vrai, c'est publié chez Saïch Barral, mais moi, je peux vous faire un autre roman. Et donc, il a pris la fin, en fait, de le dernier chapitre ou la dernière histoire, qui est très différente des autres, d'ailleurs, de la littérature nazie en Amérique, et il en a fait un roman. Et d'ailleurs, le prologue, enfin, le préambule du récit dans Estrella Distante, Étoile Distante, donc le roman qui est né du dernier chapitre de la littérature nazie en Amérique, met en fiction la manière dont un texte et l'autre sont en relation. Il explique, le narrateur explique comment un certain Arturo Bellano lui a raconté cette histoire, et effectivement, bon, voilà. Donc ça s'est produit une première fois dans le cas de la littérature nazie en Amérique et Étoile Distante. Et c'est extraordinaire la manière dont un chapitre ou une nouvelle qui est parfaite, enfin un fragment d'un récit très ample, peut se transformer en roman. Comparer ça, c'est très très intéressant si on veut apprendre à écrire des récits et voir comment Bolaño, bien sûr, le fait, parce qu'il est capable non seulement de mettre davantage de détails. Enfin, il est capable de transformer un genre dans un autre, ou un récit bref dans un récit beaucoup plus long. Mais il est aussi, bien sûr, tenté, le fait, par l'insertion de nouvelles histoires à l'intérieur de cette histoire. Donc on va trouver des sortes d'enchâssements de récits et des bifurcations à nouveau, comme s'il était inépuisable. C'est ça qui est extraordinaire. Voilà.
C'est une littérature,
un narrateur inépuisable. Et pourtant... Moi, je crois que c'est un auteur absolument essentiel dans la littérature en espagnol, bien sûr. Des dernières, il est mort en 2003, donc de la fin du XXe siècle, du début du... Et qu'il y a toujours un immense plaisir à lire les romans, les nouvelles, et la poésie aussi de Bolaño. Mais véritablement, on ne s'ennuiera jamais et on sera plongé dans des réflexions. Ce qui est extraordinaire, c'est de penser sans y penser. Or, c'est ce qu'il nous fait faire. Il nous fait penser sans y penser. Et il nous fait sentir penser. Voilà.
C'était Rencontre avec Florence Olivier autour de l'œuvre de Roberto Bolaño.
Sur livre.